Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de présenter Cyril Pitrou. Cyril Pitrou travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et je lui ai demandé de me donner quand même quelques petits éléments pour que je puisse le présenter. Ce n'est pas parce que je le vois tous les jours ou presque et qu'on se rencontre au forum, dans l'amphi ou autour d'un café, qu'on se connaît vraiment très bien. Et en fait, non, j'ai découvert que je ne le connaissais pas du tout, mais j'ai surtout découvert qu'on avait un parcours qui se ressemblait un peu.
Ah.
Ouais, un peu. Bon, ne serait-ce que parce que j'ai fait ma thèse sur l'hélium primordial. Donc l'hélium primordial fait partie des éléments légers de l'univers primordial dont on va parler Cyril. Donc déjà, ça c'est un point commun très très fort. J'ai commencé comme ça, mais ça va plus loin en fait. Alors, il y a un petit mot. Cher Daniel, je ne vais pas vous lire toute la lettre parce que c'est long, mais j'en ai extrait quelques éléments.
5 heures du matin.
Comment ?
5 heures du matin.
À 5 heures du matin, oui. Alors, il faut oui, c'est à 5 heures du matin. Enfin, moi, j'ai reçu à 7 heures du matin. Donc, oui, effectivement, j'imagine que ça a dû prendre un certain temps. Alors, il me dit, j'ai découvert la physique quantique et une bibliothèque remplie de Landau et Lipschitz. Pour ceux qui connaissent un peu, ça fait partie de ces volumes de physique théorique écrits venus de Russie à l'époque de l'URSS. Et ce sont des grands morceaux d'anthologie pour la physique théorique. Ça reste encore des ouvrages très très intéressants et passionnants. Et donc, il découvre ça. Il découvre la relativité. Je suppose que ça a dû être un moment, comme d'ailleurs les autres livres de cette collection. Et ensuite, il rencontre au même temps, et c'est ça qui est intéressant, ce grand écart, un virtuose de la guitare. Voilà. Donc il apprend que cette personne fait une thèse. Il n'a jamais entendu parler de thèse. Moi, je sais qu'effectivement, quand j'étais étudiant, pour moi, une thèse, c'était quelque chose qui se perdait dans les limbes et j'avais l'impression que c'était complètement inaccessible. Et puis, simplement, il se disait, je vais être prof. C'est très bien, d'ailleurs, d'être professeur. Donc c'était déjà l'idée de la transmission. Mais comme il entend en reparler, il se dit, je vais pas être prof, je vais faire une thèse. Moi, j'ai fait exactement pareil. J'ai commencé à vouloir être instituteur, puis après être professeur, et après je me suis dit pourquoi pas une thèse, et c'est comme ça que peu à peu je suis arrivé à faire un DEA, qui n'est d'ailleurs pas un DEA d'astrophysique, mais c'est de toi dont on veut parler. Il fait un DEA, effectivement, un DEA je suppose en astrophysique.
Physique théorique.
Hein ?
Physique théorique.
Physique théorique, voilà, c'était même pas astrophysique, c'est vraiment marrant de voir ce parallèle à 40-30 ans d'intervalle. Et là, il rencontre, c'est toujours des rencontres comme ça qui sont déterminantes. Il rencontre, il assiste au cours de Pierre Salati. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Pierre Salati, s'il est venu faire une conférence ici, mais ce serait peut-être une lacune à combler. C'est quelqu'un qui travaille sur la cosmologie théorique à Annecy, au LAT, hein, c'est ça.
LAPTH. Laboratoire de physique théorique.
Laboratoire physique théorique, oui, c'est ça. Donc à Annecy, de toute façon, c'est pour ça qu'on le voit quand même de temps en temps, mais pas tous les jours. Et je peux comprendre, Pierre Salati, c'est quelqu'un de très brillant et très très clair. Et donc là, déjà, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Et ensuite, il y a les réalités du ciel qui nous arrivent, en particulier la carte de WMAP, qui avait l'air magnifique, et qui commence à te mettre sur la piste de ce qu'on peut arriver à faire en astronomie. Et il se dit, c'est ça que je vais faire. Et donc, il prend la décision de faire le tour du monde. Voilà. Vous voyez, le lien, je ne sais pas, il n'y en a pas, mais on fait le tour du monde. Et après le tour du monde...
Pour être sûr de prendre la bonne décision.
Et après le tour du monde, il se retrouve à Paris. Ça me paraît normal. Je pense que le tour du monde est fait pour réaliser que finalement, c'est à Paris qu'on doit être. Donc, il se retrouve à Paris, mais pas n'importe où. Il se retrouve chez un ami, à côté, là.
Oui.
À Saint-Jacques, près du métro Saint-Jacques. Vous voyez, comme les choses sont vraiment dirigées. Il y a vraiment une cohérence dans tout ça. J'admire beaucoup. Et il se dit, voilà, Saint-Jacques, finalement, on voit très vite la coupole. Enfin, il apprend qu'il y a un observatoire. Et là, il suffit de faire un ou deux pas. Il frappe à une porte et il se retrouve devant qui ? Devant Jean-Philippe Puzan. Vous connaissez sûrement Jean-Philippe Puzan, qui est quand même... un collègue qui est très inspirant et qui, avec lequel il commence sa thèse. Voilà, tout débute de cette manière-là. Donc la thèse commence. Seule chose que je n'ai pas eu comme information, mais je devrais le savoir, c'est l'intitulé de la thèse, mais ça tu vas le dire toi-même. La thèse commence en 2005. Et ensuite, eh bien, il se dit, qu'est-ce que je fais? Heureusement, j'ai passé l'agrégation, je ne suis pas sûr de pouvoir rentrer au CNRS. Là, on commence vraiment, on prend son bâton de pèlerin, on va à l'étranger, on fait ses preuves, comme si on n'en avait pas fait avant. Et puis, le temps passe, et finalement, je passe quand même toutes les péripéties, et se retrouve donc, après une proposition de post-doc, il travaille à Saint-Gobain, ça c'est intéressant de travailler à Saint-Gobain.
Oui.
On apprend le concret. Voilà, comme tous les philosophes aussi, à un moment donné, s'intéressent au concret. Spinoza taillait des lunettes. Donc là, toi, tu fais de la théorie et tu te dis, quand même, mettons les mains, non pas dans le cambouis, mais dans le verre. Et finalement, en repostulant au CNRS, il est rentré au CNRS en 2011. Et puis, et ensuite, à l'Institut d'astrophysique, où il continue. Donc à réfléchir sur les problèmes de cosmologie. Alors je présume que l'intitulé de ta thèse ne devait pas être très éloigné de ce dont tu vas parler ce soir.
Non, c'était assez éloigné,
c'était vraiment facile. Donc, je te laisse parler. Et alors avant, juste, je voulais simplement dire que moi j'ai rencontré aussi Cyril à travers son talent de divulgateur et de... Si, parce que je cherchais quelqu'un pour écrire un article sur l'histoire de l'univers, l'histoire du Big Bang jusqu'à nos jours, et Cyril l'a fait. Et du Big Bang à la formation du système solaire, je crois vous avoir parlé de cette revue que j'ai eu le plaisir de faire de coordonner ce numéro spécial astrophysique des lettres françaises. Je le redis, non pas pour... c'était d'ailleurs une activité bénévole, on l'a tous fait bénévolement, c'était vraiment une aventure intéressante. C'est quand même une revue dont le directeur était Louis Aragon, c'est pas rien. C'était le supplément qui était donné donc, une fois par mois dans un numéro de l'Humanité. Ensuite, il est passé en ligne. Ensuite, il a été republié version papier depuis à peine un an. Et ce numéro était le premier numéro de la série. Voilà, c'était bien. Et vous avez dedans des articles de François Boucher, David Elbaz, Patrick Peter, Cyril Pitrou. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Et je vous dirai, si vous voulez, comment faire pour... Je vous mettrai tout à l'heure, pour ceux qui le souhaitent, ou alors vous viendrez me le demander après... Je vous dirai comment obtenir un ou des numéros si ça vous intéresse. Mais il y a un très bon article magnifique de Cyril sur l'histoire donc, de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à nos jours.
Merci.
Voilà, je ne veux pas prendre plus de temps de parole, j'ai déjà pris pas mal. Merci.
Alors, bonsoir. Alors, le sujet dont je vais vous parler ce soir, ce n'est pas exactement mon sujet de thèse. Moi, j'ai travaillé sur le rayonnement fossile. Ce soir, je vais vous parler de la synthèse des éléments légers dans l'univers primordial. Alors normalement, lorsqu'on commence une présentation de vulgarisation, normalement, sur le premier transparent, il y a une belle image. Une galaxie, une vision d'artiste, une exoplanète, une supernova qui explose, n'importe quoi. Moi, je me suis dit, quelle belle image pourrait mettre. Et je n'ai pas trouvé. En fait, dans ce domaine-là, ce que je trouve de plus beau, c'est cette image-là. Alors ce n'est pas une image, c'est juste l'entête d'un article de 1948, vous voyez ici, qui a été publié dans Physical Review. Et cet article... un titre que je trouve déjà sublime par la police de caractère, donc je trouve que c'est une œuvre d'art, rien que la typographie, mais surtout le titre est incroyable, « The Origin of Chemical Elements », l'origine des éléments chimiques. Alors déjà, on voit un peu l'hubris des auteurs, parce qu'ils ne disent pas « de l'origine » ou « à propos », une hypothèse, une idée. On sent qu'ils sont, contents de ce qu'ils ont fait, et à la fois que c'est un sujet très sérieux, et en même temps, cet article est connu pour le fait qu'on a trois auteurs, Alpher, Bethe et Gamow, et en fait, Bethe a été rajouté juste pour que ça fasse comme alpha, bêta, gamma. Donc en fait, cet article est extrêmement important, c'est un article fondateur pour la cosmologie, et pourtant, ça ne les empêche pas de faire des blagues en même temps qu'ils publient cet article. Alors pourquoi cet article, cette image, moi je la trouve merveilleuse, c'est qu'en fait, si on dézoome et qu'on regarde l'article dans son entièreté, l'article tient sur une page. En effet, là, il y a un petit mot de l'éditeur, et l'article dépasse de quelques lignes à la page suivante. Donc s'il n'y avait pas le petit mot de l'éditeur, ça tiendrait vraiment exactement sur une page. Une page, deux équations, un graphique, c'est tout. Et dans cet article, il n'y a rien de moins que l'idée que les éléments chimiques auraient été formés dans l'univers primordial. Alors on sait que maintenant, ce n'est pas exactement ça, que c'est uniquement les éléments chimiques légers, je vais revenir là-dessus, mais ça c'est une idée extraordinaire parce qu'il faut savoir que dans la cosmologie, le modèle standard du Big Bang repose sur essentiellement trois piliers observationnels, c'est-à-dire trois preuves qui font qu'on a confiance dans ce modèle standard. Un, le fait que la vitesse des galaxies, que les galaxies, plus elles sont loin, plus on les voit rouges. Donc c'est le fait qu'on a une vitesse de récession des galaxies due à l'expansion de l'univers. Ça a été observé, compris dans l'entre-deux-guerres. Deux, on a le fait qu'on a des éléments qui sont créés dans l'univers primordial, et c'est après cet article-là qu'on a compris ça. Et trois, on a la prédiction d'un rayonnement fossile. Et Alpher, qui était en thèse à 27 ans à cette époque-là, ça c'est en février, en juillet, il publie un autre article de 3 pages, dans Physical Review toujours, où juste en une ligne, il dit, et au fait, la conséquence de tout ça, le fait que l'univers était plus chaud quand il était jeune, au fait, ça prend une ligne, il dit, il doit y avoir un rayonnement fossile à 5 degrés. Extraordinaire, il a 27 ans, il est en thèse, et il comprend 2 des 3 piliers de la cosmologie moderne. Donc pour moi, je trouve ça extraordinaire. Et ça tient en une page. À l'époque, on pouvait juste avoir une idée brillante et juste en une page, 2 équations, et on pouvait la communiquer. Alors, je vais revenir sur ce sujet. La synthèse des éléments légers dans l'univers primordial. Alors, la synthèse, ça fait référence à la physique nucléaire. Donc, je vais vous parler de physique nucléaire, je vais vous faire un petit rappel, et ensuite, j'expliquerai comment ça se passe. Les éléments, ça fait référence à la chimie. Je ne ferai pas trop de chimie, mais j'expliquerai le lien entre les deux. Et puis, évidemment, l'univers primordial, ça, c'est mon domaine de recherche de prédilection. Ça fait référence à la cosmologie, et primordial, ça veut dire quand l'univers était jeune, par opposition à l'univers récent, qu'on pourrait appeler l'univers non primordial. Alors, j'ai fait un plan en 3 parties. D'abord, je vais parler de physique nucléaire, ensuite, de cosmologie, et ensuite, une fois que j'aurai fait tous ces rappels-là, je mettrai tout ça ensemble pour vous expliquer comment, dans l'univers primordial, on peut avoir la synthèse d'éléments, donc de la nucléosynthèse, et je vous expliquerai pourquoi cette idée d'Alpher, Bethe et Gamow était bonne, mais que finalement on synthétise uniquement les éléments légers et pas tous les éléments comme ce qu'ils pensaient comme ce qu'ils ont proposé comme idée en 1948. Alors les éléments, en tout cas moi quand j'étais petit, je me souviens quand on nous expliquait il y a 4 éléments. Alors évidemment on sait bien que c'est pas vrai, mais on continue de manière poétique, en tout cas on continue à dire les 4 éléments, c'est la terre, l'eau, l'air et le feu. Ça fait toujours. En fait, ce que ça veut dire, c'est que notre culture, elle est quand même ancrée dans la culture, l'héritage de la culture grecque, et que ça, c'est juste la théorie développée par les Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui avait 4 éléments, qui constituaient en fait. La question que se posaient les Grecs, c'est de quoi est fait le monde matériel ? Ils disaient, il est fait de terre, d'eau, d'air, de feu. Alors, après, c'était repris, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que 3 éléments, d'autres qui pensent qu'il y a 5 éléments. Voilà. Et il y avait la même idée au 5e siècle avant Jésus-Christ et les Grecs, une autre idée qui est aussi finalement centrale dans la physique moderne, c'est que c'est le concept d'atome de Démocrite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper toujours la matière en des éléments de plus en plus petits, il existe une petite unité insécable qu'il a appelée atome et qu'on appelle toujours atome. Et alors, 2500 ans après, ce qu'on a compris, après des années de physique, d'expérience, de compréhension de ça, on a compris qu'en fait, les éléments, ce sont les atomes, mais qu'en revanche, les atomes ne sont pas insécables. On peut les couper. Un atome à l'intérieur, c'est fait d'un noyau et d'un nuage d'électrons. Nuage d'électrons, les électrons, donc, de manière imagée, on peut dire qu'ils tournent autour. On préfère dire dans la physique moderne qu'ils sont dans un état lié autour, c'est-à-dire qu'ils sont dans un nuage autour. Ils ont une charge négative. Et dans une taille qui est 100 000 fois plus petite que la taille de l'atome, au centre, on a un noyau. Et ce noyau, il est constitué de protons qui sont chargés positivement. Donc, c'est eux qui ont une interaction d'attraction avec les électrons, puisqu'ils ont les protons ont une charge positive, les électrons ont une charge négative. Et on a aussi des neutrons, les neutrons tirant leur nom, évidemment, du fait qu'ils sont neutres. Et donc, comme le noyau est fait de protons et de neutrons, le terme qu'on utilise, terme collectif, de la même façon qu'on utilise être humain pour homme et femme comme un terme collectif, le terme collectif pour les protons et les neutrons, dans tout le cadre de cette discussion, c'est les nucléons. Chaque fois que je parle de nucléons, c'est-à-dire que je fais référence à la fois aux protons et aux neutrons dans leur ensemble. Donc c'est un terme vraiment qu'on utilise lorsqu'on fait la physique nucléaire. Alors, la façon qu'on a d'habitude de ranger, de classer les éléments, normalement, on range les éléments selon leurs propriétés chimiques. Qu'est-ce que c'est que la chimie ? Lorsque vous avez un atome qui réagit avec un autre atome, par exemple pour former une molécule, ce qui se passe, c'est que les nuages d'électrons qui sont autour se réarrangent dans une configuration plus avantageuse, plus stable, enfin bref, se réarrangent. La chimie, c'est avant tout les réarrangements des nuages d'électrons. Or, le nombre d'électrons est lié au nombre de protons. On a autant d'électrons que de protons dans un atome neutre. Donc en fait, si on veut ranger les éléments, comme maintenant on sait que ce sont des éléments chimiques, les éléments par leurs propriétés chimiques, en fait, on va les ranger par leur nombre de protons. Donc là, on a l'élément hydrogène avec un seul proton, l'élément hélium avec 2 protons. Mais on voit que si on fait ça, on commence à avoir un petit problème dans la notation, c'est très bien pour la chimie, mais pour ce qui est du noyau, vraiment, on va ranger dans la même case un proton tout seul, ou, qu'on appelle un atome d'hydrogène, enfin un noyau d'atome d'hydrogène, ou un proton avec un neutron, qu'on appelle deutérium, on va les mettre dans la même case, on va dire que ce sont des isotopes. Donc on va mettre tous ceux qui ont le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent, on va les mettre dans la même case. Donc là, on va avoir l'hydrogène, un proton, en plus, on va avoir le deutérium, un proton et un neutron, et le tritium, un proton et 2 neutrons. Et puis la même chose pour l'hélium 4, on va avoir l'hélium 3, qui est 2 protons et 1 neutron, qui est un isotope de l'hélium 4, le plus courant, 2 protons et 2 neutrons. Donc on voit que les ranger selon leurs propriétés chimiques, pour ce qui est de la question de la fabrication des noyaux, parce qu'il s'agit bien de cela, ce n'est pas la bonne chose. Donc la bonne chose à faire, c'est de les ranger en fait dans un diagramme en deux dimensions, où on met sur un axe les neutrons, et sur un axe, on met les protons. Donc là, par exemple, la case 0, 0, bon, il n'y a rien. Et après, on commence par avec la case 1 neutron. Ici, vous voyez, je suis sur le 1, et là, je suis sur le 0. 1 neutron, 0 proton. Alors ça, on ne peut pas vraiment appeler ça un noyau, parce que ce n'est pas chargé un neutron, donc ça ne pourrait pas se lier avec un électron. Et en plus, c'est instable le neutron, donc on le met en pointillé pour dire qu'il est rangé là, mais on n'appellera pas ça un noyau. Tous les autres, on va appeler ça des noyaux. L'atome d'hydrogène, c'est juste un proton tout seul. Deutérium, ce que je disais tout à l'heure, un proton et un neutron. Hélium 3, deux protons, un neutron. Hélium 4, deux protons, deux neutrons. Là, on a une bonne façon de ranger. On voit que sur chaque ligne, on a un élément, neutron, hydrogène, hélium, lithium, etc. Et puis, on voit bien les différents isotopes avec les différentes colonnes. C'est dans le cadre de ce... En tout cas, on va discuter des éléments sur ce genre de diagramme. Alors, on a une notation. On peut dire que la notation de la physique nucléaire est une notation naze. Et pour retenir, savoir que NAS, ça s'écrit NAZ. Et donc, en fait, les éléments, les noyaux pardon, de la physique nucléaire, on les note avec trois chiffres, le N, le A et le Z. N, c'est le nombre de neutrons. A, c'est le nombre total de nucléons, donc neutrons plus protons. Et Z, c'est le nombre de protons. Donc, par exemple, là, si on prend pour exemple HE3, ben son Z, c'est 2, il y a 2 protons. Son A, le nombre de nucléons total, c'est 3. Et son N, son nombre de neutrons, c'est 1. Donc, on continue à utiliser des notations historiques comme ça, mais il faut toujours en permanence traduire sur ce que ça veut dire. Par exemple, lithium 6, ça veut dire 3 plus 3, 3 protons, 3 neutrons. En permanence, il faut essayer de voir la correspondance entre cette notation historique et la place que ça a dans ce diagramme-là pour bien comprendre les choses. Là, par exemple, c'est la classification de tous les éléments qui sont plus ou moins stables qu'on connaît. Ceux qui sont stables, vraiment, c'est que ceux qui sont noirs. Donc, en fait, vous voyez qu'ils sont sur la diagonale. Essentiellement, les noyaux qui sont stables sont ceux qui ont à peu près le même nombre de protons, ici, que le même nombre de neutrons. Donc on n'a pas tout, on n'a pas tous les éléments qui sont possibles. Et alors, la question c'est, dans l'univers, quelle est l'abondance des différents éléments, c'est-à-dire quelle est l'abondance des différents noyaux? Eh bien ce qu'on voit, donc ça c'est le nombre de nucléons, ah, c'est un peu coupé, donc c'est A, le nombre total de protons et de neutrons. On voit qu'on a beaucoup d'éléments légers. Donc ici, c'est des unités un peu spéciales, je vous le traduis. Ici, ça veut dire qu'il y a 75% qui est sous forme d'hydrogène. C'est-à-dire que 3/4 des nucléons sont sous la forme de protons, tout seuls. En fait, les 3/4 des nucléons, c'est des protons qui sont tout seuls, ou alors, soit tout seuls dans un plasma, soit avec un électron sous forme d'atome d'hydrogène. Mais c'est, en fait, c'est le noyau le plus simple. Un quart, 24%, enfin un petit peu moins qu'un quart, 24% sous forme d'hélium 4, deux protons, deux neutrons. On a un petit peu de deutérium, un petit peu d'hélium 3. Et on a après les autres éléments, etc. Et donc maintenant, ce qu'on sait, depuis 1948, c'est que tout n'est pas formé dans l'univers primordial. En fait, les éléments légers sont formés dans l'univers primordial. Donc, là, vous allez être déçus. Moi, je vais vous parler uniquement de cette partie-là. Tous les autres éléments, en fait, ont des sites de production qui ont rien à voir avec l'univers primordial. Ceux-là, ils sont détruits par, ils sont obtenus par destruction avec des rayons cosmiques d'éléments plus lourds. Tous ceux-là, ils sont produits dans les réactions qui ont lieu dans les étoiles au cours des milliards et des milliards d'années de l'histoire de l'univers. Et puis, tous ces éléments qui sont plus lourds que le fer sont produits dans toute la physique violente que je ne maîtrise pas, les explosions de supernova, les fusions d'étoiles à neutrons, etc. Ça va créer des éléments encore plus lourds que le fer. Donc moi, je vais me concentrer uniquement sur ces éléments légers. Mais ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est comment, avec les ingrédients de physique standard qu'on connaît, bien testés sur Terre, on peut arriver très facilement, à montrer qu'on a 24%, ce qui est énorme, sous forme d'hélium. Ce qui est considérable. Un quart sous forme d'hélium, tous les autres éléments ont des abondances bien, bien plus faibles. Alors, il faut faire un petit détour quand même par la physique moderne lorsqu'on parle de physique nucléaire. Et depuis 1905, on a la théorie de la relativité restreinte. Et ce que nous a appris Einstein dans cette théorie, en fait, c'est pareil, ça fait partie de ces articles qui font que quelques pages. Et l'équation fondamentale de cette théorie, c'est de dire qu'il y a une équivalence entre l'énergie et la masse. C'est-à-dire que c'est pas juste la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré est égale à l'énergie. C'est vraiment dire la masse, c'est de l'énergie. C'est-à-dire que cette égalité, ce n'est pas juste une constatation mathématique, il y a vraiment une implication physique sur la nature des choses de dire E égale MC2. C'est-à-dire, lorsque vous imaginez la masse comme quelque chose un peu de gris, un peu comme une pierre, et l'énergie, je ne sais pas moi, comme du feu, de la lumière, etc., vous êtes victime de vos représentations que vous avez héritées de votre enfance, mais en fait, ces deux représentations ne devraient faire qu'une dans votre tête. Si vous avez les deux représentations, c'est juste culturel. La masse et l'énergie, c'est la même chose. On devrait avoir la même représentation pour les deux. Et alors, ce qu'on fait souvent dans la physique moderne, c'est qu'on prend la vitesse de la lumière égale à 1. Donc, par exemple, c'est très simple. Vous dites, je prends pour le temps la seconde. Puis, au lieu de prendre le mètre pour les longueurs, vous dites, je prends la seconde lumière, la distance parcourue par la lumière en une seconde. Et dans ces unités-là, évidemment, la vitesse de la lumière, c'est une seconde lumière par seconde. Donc, c'est 1. Et donc, dans ce cas-là, vraiment, l'affirmation E égale MC2, telle qu'on l'écrivent les physiciens modernes, ils n'écrivent jamais E égale MC2, ils écrivent dans les bonnes unités, ils écrivent E égale M. La masse, c'est l'énergie. Et alors, dans les particules qui constituent l'univers, on a en fait une très grande amplitude dans les différentes masses possibles des particules les plus importantes. On voit que l'électron, alors là, c'est en unité qui s'appelle le méga électronvolt. Bon, si vous voulez, c'est un électronvolt, c'est l'énergie d'un électron dans un volt. Bon, c'est une unité qui vaut ce qu'elle vaut. Elle est juste intéressante parce que c'est une unité naturelle dans ce qu'on va faire. Donc, peu importe d'en avoir une intuition ou pas, ce qui est important, c'est de savoir que c'est en gros la masse d'un électron. Un électron, c'est 1/2 méga électronvolt. Un neutrino, c'est beaucoup plus léger. Vous voyez, j'ai mis 5 zéros, en fait, c'est même peut-être plus petit que ça. En revanche, un neutron et un proton, c'est de l'ordre de 1000, un peu moins, 939 et 938 méga électronvolts. Et alors, c'est important cette différence. Ça va avoir une importance fondamentale, je vais le discuter. Ici, c'est 939,5, j'ai pas mis, et là, c'est 938,2. Le neutron est légèrement plus lourd et donc plus énergétique que le proton. Puis, par exemple, on a le boson de Higgs qui est beaucoup plus énergétique à 125 000 méga électronvolts. Alors, quand Einstein nous a dit « Ah, la masse et l'énergie », c'est pas qu'on doit oublier complètement ce qu'on a appris en physique à l'école, que l'énergie, c'est 1,5 de MV2. En fait, c'est juste une extension de cette formule. Il nous dit qu'il n'y a pas que la masse comme énergie, c'est pas juste E égale M. En fait, la vraie formule qui est dans l'article d'Einstein, c'est pas E égale M, c'est E égale gamma fois M, où gamma est un nombre qui vaut 1 quand une particule n'a pas de vitesse, mais qui fait beaucoup plus quand une particule a une vitesse. Donc ça, c'est le facteur gamma en fonction de la vitesse. Et là, c'est le rapport de la vitesse sur la vitesse de la lumière. Ça fait 0, ça veut dire que ça bouge pas de vitesse. 1, on est à la vitesse de la lumière. Ça tend, je ne peux pas le tracer parce que ça tend vers l'infini. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'énergie est considérablement plus grande que juste l'énergie de masse lorsque une particule a une certaine vitesse. Donc, on peut toujours le séparer en disant que l'énergie, c'est l'énergie de masse plus gamma moins 1 fois la masse. C'est-à-dire que ça, on peut dire, c'est une énergie due à la masse et ça, c'est une énergie due au mouvement, une énergie cinétique. Donc, ça veut dire que toutes les particules, elles pourront avoir au moins leur énergie de masse, voire plus, mais pas moins. C'est ça qui est important dans cette relation. C'est le fait que le facteur gamma, même quand on n'a pas de vitesse, il fait 1, on descend jamais pour une particule qui a une masse en dessous de son énergie de masse. Alors, voilà, sur un même transparent, là, une comparaison entre une réaction chimique, que moi je considère que c'est une réaction chimique, mais elle est tellement simple qu'on pourrait dire que ce n'est même pas une réaction chimique, la plus simple, et une réaction nucléaire, la plus simple. Quelle est la différence fondamentale entre une réaction chimique et une réaction nucléaire? Là, voilà. D'abord, je vais parler de cette réaction chimique. Je vais la lire de la gauche vers la droite. Lorsque j'ai un atome d'hydrogène, j'ai dit la chimie, en gros, c'est le réarrangement des électrons. Bon, le réarrangement le plus violent qu'on puisse faire pour un atome d'hydrogène, c'est de lui piquer son électron. C'est une façon de se réarranger. Pour piquer un électron à un atome d'hydrogène, il faut lui apporter de l'énergie. On le fait avec un photon. Gamma, c'est la notation des physiciens pour les photons. Ce photon doit faire 13,6 électronvolts. Vous voyez, électronvolts, c'est beaucoup plus petit que méga électronvolts. Si j'apporte cette énergie-là, alors je peux séparer le noyau qui est un proton d'un électron. Là, j'ai parlé de cette réaction de la gauche vers la droite. Mais j'ai mis une double flèche ici. Parce que toutes les réactions peuvent se faire dans un sens ou dans l'autre sens. Et donc, cette réaction de dissociation de l'atome d'hydrogène, lorsque je la regarde à l'envers, c'est une réaction de recombinaison. Proton plus électron donne un atome d'hydrogène. Et il y a moins d'énergie dans un atome d'hydrogène que dans un proton et un électron séparé. Donc, ça libère de l'énergie, ça libère 13,6 électronvolts. Pour les réactions nucléaires, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de lier des électrons à un noyau, c'est au sein même du noyau que des choses qui sont liées. C'est-à-dire que dans un noyau, par exemple là c'est le deutérium, donc j'ai mis en rouge, mon code couleur en rouge c'est les protons, en bleu les neutrons, là ils sont liés, on peut dire que de manière classique ils tournent l'un autour de l'autre, mais c'est pas ça, ils sont vraiment à cause de force, ils sont dans un état lié. Et bien ça a moins d'énergie que lorsqu'ils sont séparés. Là j'ai 938,2, 939,5. Si je fais la somme des énergies dans un proton et dans un neutron, je trouve 1877,7 méga électronvolts. Et en fait, le deutérium, ça en fait moins. Ça en fait 2,2 méga électronvolts de moins. Donc si j'arrange un proton et un neutron, s'ils se rencontrent pour former un état lié de deutérium, ça va libérer de l'énergie sous forme d'un photon qui va avoir 2,2 méga électronvolts. Inversement, et c'est vraiment fondamental pour le sujet de ce soir, s'il y a un photon qui rencontre du deutérium et qu'il a 2,2 méga électronvolts, il peut casser cette liaison et séparer de nouveau les protons et les neutrons. Donc la conséquence de ça, il y a deux conséquences importantes, c'est que déjà les échelles d'énergie pour les réactions chimiques, c'est-à-dire le fait que les électrons se réarrangent ou qu'on forme des atomes, c'est-à-dire que les électrons sont liés au noyau, sont beaucoup plus faibles de l'ordre de l'électronvolt que les énergies dans les réactions nucléaires, qui sont de l'ordre du méga électronvolt, de l'ordre de 1 million de fois plus grande. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on a des atomes d'hydrogène dans un bain de photons, un gaz de photons, si on a beaucoup de photons, même... pas forcément beaucoup, mais si on a des photons dans ce gaz de photon qui ont cette énergie-là, alors ils vont systématiquement casser. C'est-à-dire que systématiquement, la réaction qui se fera le plus, c'est d'aller de là vers la droite, de casser les atomes d'hydrogène. Et de la même façon, pour ces réactions-là, si on met du deutérium dans un bain de photons et qu'il y a beaucoup de photons qui ont cette énergie-là, de l'ordre de 2,2 mégaélectronvolts, systématiquement, ils vont casser le deutérium. Donc en cosmologie, on sait que si on veut former des atomes, il faut qu'on n'ait pas de photons qui aient trop d'énergie, pas plus que de l'ordre de l'électronvolt. Et si on veut former des noyaux, par exemple du deutérium, il faut absolument qu'il n'y ait pas de photons qui aient plus que cette énergie-là. Et c'est ça, ça va être ça le premier facteur limitant pour former des noyaux, ne pas avoir de photons qui cassent les noyaux. Alors pour bien comprendre la spécificité et l'idée géniale qu'ont eu Alfred Bethe et Gamow, la spécificité de l'univers primordial par rapport aux étoiles, voilà résumé la réaction disons, principale de formation d'hélium-4 dans les étoiles. L'hélium-4, c'est deux protons en rouge et deux neutrons en bleu. Mais dans les étoiles, on n'a pas de neutrons. Je vous dirai pourquoi après. On n'a que des protons. En fait, on n'a que de l'hydrogène, mais il fait tellement chaud que les électrons ils sont pas associés à l'hydrogène. On a juste les noyaux, donc des protons tout seuls. Et vous voyez que pour arriver à former de l'hélium-4, il faut passer par cette étape-là. Un proton rencontre un autre proton et deviennent un proton plus un neutron, ce qui libère un neutrino et un positron. Bon, d'accord, ça, c'est pas très important. Enfin, c'est quand même important parce que c'est à l'origine des neutrinos solaires. Mais ce qui est important, c'est que vous voyez là, j'avais un proton, et maintenant j'en ai un qui s'est transformé en un neutron. Ça, cette transformation du proton en neutron, c'est un cas particulier de ce qu'on appelle les interactions faibles. Et les interactions faibles, leur problème, comme leur nom l'indique, elles sont faibles. C'est-à-dire que ce n'est pas efficace. Cette étape-là, c'est une étape qui n'est pas efficace. Proton plus proton donne proton plus neutron, c'est très lent. Il y a peu de probabilité que ça arrive. C'est pour ça que ça dure des milliards d'années dans les étoiles à voler. Mais, alors, une autre chose que ça dit, c'est que finalement, on pourrait voir le neutron comme un autre état du proton. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, vous voyez, ça c'est la même particule, mais des fois elle est dans un état rouge et des fois elle est dans un état bleu. Je peux dire, en fait, le proton et le neutron, ce n'est pas des choses différentes. C'est la même chose, mais dans un état différent. C'est la vision, en tout cas, la physique qu'on appelle l'isospin, c'est-à-dire qu'ils sont dans un état d'isospin différent. Dire, ah, ce n'est pas deux particules différentes, c'est la même, mais dans un état différent. Ça va avoir son importance. Dans les étoiles, on n'a pas de neutron. On doit passer par cette étape-là pour former ça, puis ça, et enfin l'hélium-4. Mais dans l'univers primordial, on va avoir des neutrons. Et donc maintenant, c'est de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de la cosmologie primordiale et je vais vous expliquer pourquoi on a des neutrons et comment on connaît la quantité de neutrons qu'on a dans l'univers primordial. Pour ça, je vais devoir vous parler de cosmologie. Alors, je vais vous parler de cosmologie le plus rapidement possible. Jusqu'à présent, j'ai fait de la vulgarisation. J'ai peut-être dit des choses simples, j'ai peut-être simplifié, j'ai peut-être dit juste l'essentiel, mais j'ai pas menti, j'ai pas trahi, j'ai dit des choses qui étaient vraies. Quand on commence à faire de la cosmologie et qu'on parle d'expansion de l'univers, c'est très difficile. C'est très difficile de ne pas trahir l'idée d'expansion de l'univers. Par exemple, on peut prendre cette analogie que c'est la même chose que les grains de raisin dans un gâteau qui grossit. Ah, très mauvaise analogie. Vous voyez, des grains de raisin dans un gâteau, je le mets à cuire, ça grossit, et les distances entre les grains de raisin augmentent. C'est une très mauvaise analogie parce que pourquoi elles augmentent les distances entre les grains de raisin? Parce qu'elles ont des vitesses et s'éloignent les uns des autres. Le gâteau est en expansion. Mais l'expansion de l'univers, c'est pas ça, si je remplace les grains de raisin par des galaxies. L'expansion de l'univers, c'est vraiment fondamentalement différent. C'est pas que les particules, les galaxies, ont des vitesses d'éloignement les unes par rapport aux autres, c'est vraiment que l'espace à l'intérieur est dynamique, c'est la relativité générale, hein. Toute la théorie de la relativité générale, c'est dire que l'espace-temps est dynamique. Il y a de l'espace qui se crée. C'est pas des particules qui ont une vitesse dans un espace intangible, l'espace newtonien, c'est l'espace qui n'est pas intangible, qui est dynamique et qui se crée entre les particules mêmes. Donc, cette vision du gâteau qui grandit, bon, c'est une bonne analogie, mais c'est pas. J'ai toujours ce goût amer lorsque je donne cette analogie parce que c'est pas la bonne. Une autre façon de le voir, c'est de tracer un diagramme d'espace-temps. Là, j'ai mis le temps sur l'axe vertical. Et là, l'espace, disons, sur un axe. J'ai mis deux dimensions, sur un axe horizontal avec un effet de projection. On va dire que ça, c'est aujourd'hui, par exemple, avec des galaxies. Et l'expansion, c'est de dire que les distances typiques entre les galaxies sont de plus en plus grandes lorsque le temps passe. Okay ? Évidemment. Mais quand on est cosmologue, c'est comme quand on est archéologue. Évidemment, on s'intéresse au futur, mais essentiellement, on s'intéresse au passé. L'expansion de l'univers, on la regarde toujours à l'envers lorsqu'on est cosmologue. On regarde vers le passé, et ce que ça veut dire, c'est que si les distances typiques entre les galaxies sont de plus en plus grandes parce que l'espace est dynamique, en fait, lorsqu'on regarde vers le passé, les distances sont de plus en plus petites. Donc déjà, j'aime bien ce dessin, parce que ça montre que déjà, à un moment, forcément, les galaxies vont se mélanger entre elles. Puis après, les étoiles vont se mélanger entre elles. Donc, de toute façon, il va exister un moment où les distances vont être tellement petites que tout va se mélanger. Donc, forcément, l'idée d'expansion de l'univers contient en elle le fait que, loin dans le passé, quand les distances sont beaucoup plus petites, tout se touche, on a un plasma, c'est-à-dire qu'on a une soupe de particules. On ne peut pas avoir, comme ça du vide avec des galaxies. Donc ça, c'est la première idée, c'est la première conséquence fondamentale de l'expansion de l'univers quand elle a été découverte, c'est que si on l'extrapole jusque dans le passé, alors on ne peut pas avoir de galaxies, on a forcément une soupe primordiale. Alors comment on parle de cette expansion? Quel est le bon langage mathématique pour parler de cette expansion? Eh bien en fait, l'expansion, c'est de la croissance, et pour parler de la croissance, on prend les outils de l'économie. En économie, lorsque vous regardez la croissance de la production de charbon, du PIB de n'importe quel pays, d'une action, n'importe quoi, c'est toujours, on prend un point de référence, et on dit, ah, à ce point de référence, je prends une base 100. Alors en physique, on va mettre une base 1, mais c'est la même idée, c'est juste 2 zéros de différence. Et on prend une base 100 et on regarde par rapport à ce point de repère et comment la chose évolue. Donc là, c'est par exemple le PIB de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni. Donc on voit que... Ah non, c'est la population. Donc on voit que ça n'a pas eu la même dynamique au cours du 19e et du 20e siècle. Donc on va faire pareil pour l'expansion de l'univers. On va prendre une distance caractéristique, on va prendre un moment de référence. On va dire, ah, les distances typiques entre les galaxies, je vais mettre ça à 1, la distance typique entre les galaxies. Et je vais utiliser ça comme base pour comparer l'expansion de l'univers. Je vais mettre cette base, non pas à 100, mais à 1, et puis je vais mettre ça aujourd'hui. Et donc, si cette base est plus petite, on va appeler ça un facteur d'échelle plus petit que 1, ça veut dire que l'univers était à des longueurs plus petites, c'est plus grand que 1, l'univers a des longueurs plus grandes. Donc ce facteur d'échelle, c'est vraiment juste comme une base pour quelque chose qui a une croissance. Donc vous voyez là, par exemple, j'ai mis un diagramme de temps et de facteur d'échelle. Donc cette base, elle fait 1 aujourd'hui, on est là, et ici c'est aujourd'hui. Et en abscisse, ici, j'ai mis le nombre d'années, le temps, pardon, en années. Vous avez 10 ans, 1000 ans, 100 000 ans, 10 millions d'années, 1 milliard d'années, 13 milliards d'années. Donc là, ça fait 1, on est aujourd'hui. Alors, cette courbe noire, c'est la courbe d'évolution du facteur d'échelle, c'est-à-dire des distances typiques dans l'univers, en fonction du temps. Alors, comment on la trouve? Là, vous devez me croire, on la trouve avec la relativité générale. Ça a été compris dans les années 20, et c'est finalement toute la cosmologie qui est contenue dans ce diagramme. Donc, ce qui est important de voir, c'est que là, on a la formation des galaxies autour de 1 milliard d'années, mais quand l'univers est beaucoup plus récent, je vous disais, on ne peut pas avoir de galaxies. Et il se trouve qu'à cette époque-là, quand l'univers a que, par exemple, 1000 ans ou 10 ans, en fait, on a un plasma, c'est-à-dire qu'on a juste une soupe de particules. Et là, on a un trait entre les deux, et je vais essayer de vous parler de ce que c'est ce trait entre les deux. Pour ça, j'ai trois équations dans cette présentation, on arrive à la deuxième équation. Je vais m'intéresser à l'énergie par unité de volume dans l'univers. Alors, l'énergie par unité de volume, eh bien, c'est l'énergie de chaque particule, fois le nombre de particules divisé par le volume. Là, c'est simple. Si je dis que dans l'univers, il n'y a que des particules qui ont des masses, comme des nucléons, des protons, des neutrons qui se baladent comme ça dans l'espace intersidéral, alors l'énergie, c'est la masse, par exemple, des neutrons, des protons, on a vu que c'était à peu près la même, fois C2 pour en faire de l'énergie, okay, fois le nombre de particules divisé par leur volume. Et alors le volume, si toutes les longueurs vont comme le facteur d'échelle, c'est-à-dire que, comme ce que j'ai appelé A, alors, comme l'espace a trois dimensions, le volume, lui, va comme ce facteur d'échelle au cube. C'est-à-dire que si je divise toutes les longueurs par 10, que A vaut 0,1, alors j'ai divisé les volumes par 1000. Donc vous voyez, très rapidement, on va avoir des volumes qui vont être beaucoup plus petits. Et donc, l'énergie par unité de volume, comme j'ai divisé par le volume, lorsque le facteur d'échelle est beaucoup plus petit, en fait, l'énergie par unité de volume va être beaucoup plus grande. Mais c'est juste un effet de dilution. C'est l'énergie, en fait, c'est toujours la même. Pour chaque particule, ça va être MC2. Mais c'est juste que les volumes sont de plus en plus grands vers le futur ou de plus en plus petits vers le passé. Cette relation 1 sur le facteur d'échelle au cube, c'est vraiment juste dire quand on a l'expansion, on dilue les composants de l'univers. Ok, ça, c'est facile. Maintenant, je l'ai fait pour des particules qui avaient une masse. Mais les particules qui n'ont pas de masse, c'est différent. La formule pour l'énergie, cette fois-ci, on ne se tourne pas vers Einstein mais vers Planck, c'est pas E égale MC2, c'est E égale constante de Planck fois la fréquence, nu. Mais la fréquence, c'est aussi la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde. Donc l'énergie d'un photon, en gros, c'est une constante divisée par la longueur d'onde. Si vous avez une longueur d'onde qui est petite, vous avez un photon qui est très énergétique, par exemple les rayons X, les rayons gamma, c'est des longueurs d'onde toutes petites, c'est des photons qui ont plein d'énergie. Et inversement, lorsque vous avez des ondes radio, etc., ces grandes longueurs d'onde, ça a très peu d'énergie. Vous n'allez pas brûler avec des ondes radio. Alors, il en faut beaucoup. Mais ce qui est important, c'est que vous avez que l'énergie d'un photon, c'est une constante divisée par une longueur. Ah, une longueur. Et alors là, on est tenté de dire, ah, une longueur, mais les longueurs, elles sont agrandies par l'expansion de l'univers. Donc est-ce que je ne pourrais pas dire que la longueur d'un photon, c'est la longueur aujourd'hui, donc on la note lambda 0, en cosmologie, quand on met un indice 0, ça veut dire aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, fois le facteur d'échelle. Alors aujourd'hui, je l'ai mis à 1, mais par exemple, dans le passé, je pourrais dire, ah, quand c'était plus petit, peut-être que cette longueur aussi était plus petite. Eh bien, il se trouve qu'on a le droit de faire ça. Il faut mettre toutes les équations de l'électromagnétisme dans la relativité générale, faire les choses proprement. Mais si on regarde les équations, on a le droit de faire ça. On a vraiment le droit de dire que l'expansion a un effet sur les photons, donc sur la lumière, qui est d'étirer toutes les longueurs. Et en étirant toutes les longueurs, ça fait perdre de l'énergie aux photons. Donc l'énergie par unité de volume, c'est de l'énergie, mais qui ne fait que diminuer à cause de l'expansion, fois le nombre de particules divisé par le volume. Et donc l'énergie par unité de volume, au lieu d'aller comme 1 sur le facteur d'échelle puissance 3, c'est-à-dire juste un effet de dilution, en fait, ça va comme 1 sur le facteur d'échelle puissance 4. C'est-à-dire que les photons, ils se diluent, il y en a de moins en moins par unité de volume, mais en plus, ils perdent de l'énergie. Ça, c'est vraiment surprenant, mais en cosmologie, en fait, il y a des invariances qu'on n'a pas dans la physique, qui ne correspondent pas à la physique de tous les jours, et il y a quelque chose qui est a priori intuitif, la conservation de l'énergie, et bien en cosmologie, en relativité générale, ces choses-là n'existent pas. La conservation de l'énergie des photons, elle n'est pas conservée. À cause de l'expansion, les photons, ils perdent de l'énergie. Alors, comme toujours, ça veut dire que les photons qui remplissent l'univers, ils sont de moins en moins énergétiques. Mais comme toujours en cosmologie, on ne regarde pas vers le futur, on s'intéresse au passé. Et ça, c'est très intéressant, parce que s'ils ne font que perdre de l'énergie vers le futur, ils ne font que gagner de l'énergie vers le passé. Autrement dit, l'énergie par unité de volume, si je regarde vers le passé, quand j'ai un A qui est tout petit, ça va grandir, mais ça va grandir plus vite que l'énergie par unité de volume des particules massives. Donc ce que ça veut dire, c'est que quelque part dans le passé, s'il y a un bain de photons, s'il y a un gaz de photons quelque part, et il y en a forcément, il existe toujours un moment dans le passé où les distances ont été tellement raccourcies que les photons sont devenus tellement énergétiques qu'à un moment, ils ont beaucoup plus d'énergie par unité de volume que le reste de la matière. Et donc, cette idée-là, c'est l'idée que dans l'univers, on a forcément deux phases. On a une phase qui est dominée par la matière, donc quand on dit la matière, on veut dire ce qui a une masse, et une phase qui est dominée par la radiation, par le terme radiation, on veut dire ce qui n'a pas de masse. Dans le passé, loin dans le passé, il existe forcément un moment où le contenu de la matière, l'essentiel de la matière, est sous forme de photons, parce qu'ils sont extrêmement énergétiques. Et ça se passe là, au niveau du trait rouge. Tout ça, c'est l'époque qu'on appelle dominée par la matière, là où se forment les galaxies, etc. Là, on a à peu près autant. Et puis dans le passé, en dessous de avant 300 000 ans, on a une époque complètement dominée en énergie par la radiation. Donc ce diagramme-là, c'est le diagramme rigoureux scientifique. Hein, là, j'ai pas triché avec ce diagramme-là. J'ai vraiment mis toutes les meilleures données du modèle cosmologique. J'ai vraiment le facteur d'échelle qui me dit comment les longueurs grandissent en fonction du temps. Ça, c'est la même chose, mais en version vulgarisée. Donc là, vous avez le temps. Et puis le facteur d'échelle, ce serait cette courbe-là. Ce serait cette longueur-là. Vous voyez, il y a une aire où le facteur d'échelle ne fait qu'augmenter en fonction du temps. On a une aire qui est dominée par la matière, avec des galaxies, etc. Mais dans le passé, alors c'est symbolisé comme ça par de la lumière, dans le passé, on a une aire qui est dominée par la radiation. Donc ça, c'est juste le diagramme rigoureux correspondant à ce que vous avez peut-être vu dans la presse ou dans des ouvrages de vulgarisation, de l'histoire de l'univers avec de l'énergie dans les photons et après de l'énergie essentiellement dans la matière. Alors, ce qui est important, je reprends mon diagramme tout à l'heure, je vous avais dit, ah, ça, c'est les différentes particules qui sont en tout cas importantes pour la cosmologie. L'électron, 1,5 mégaélectronvolt, les neutrons et protons, bosons de X, bon, le neutrino, et en fait, les photons du CMB sont encore moins énergétiques que le neutrino. Ils ont, mais quasiment pas d'énergie aujourd'hui. Ils ont, je sais pas combien de 10 puissance, enfin, en gros, de l'ordre de 1 milliardième de mégaélectronvolt. Donc, c'est très petit. Mais ils sont plus nombreux. Mais même s'ils sont plus nombreux que les neutrons et les protons, vous voyez, les neutrons et les protons, dans 1 cm cube, donc dans un dé, hein, il y en a 2,4 × 10⁻⁷, donc 1 dix millionième. Alors que dans un cube, vous avez en permanence dans l'espace, dans un cube, vous avez en permanence 411 photons. Il y a plus de photons, mais ils sont très peu énergétiques, comme ça. Donc au final, il y a quand même plus d'énergie dans les neutrons, les protons, que dans les photons. Mais pas dans le passé, parce que dans le passé, ils sont de plus en plus énergétiques, ces photons. Si vous prenez par exemple toujours ce diagramme, là vous avez aujourd'hui 13 milliards d'années, là vous avez 300 000 ans, 100 000, 100, alors là on est un dixième d'année, donc on est de l'ordre du mois, là on est de l'ordre de quelques minutes. Et bien par ici, lorsque le facteur d'échelle est 1 milliard de fois plus petit, eh bien, la température des photons est de l'ordre du mégaélectronvolt. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous, je vous ai dit, lorsqu'on a des photons qui sont de l'ordre du mégaélectronvolt, ils vont toujours casser les noyaux. Toutes les réactions de formation des noyaux peuvent être cassées par des photons. Donc avant cette époque-là, avant quelques minutes, forcément, les photons seront trop énergétiques et empêcheront de créer des noyaux. Donc si on veut former des noyaux dans l'univers, c'est forcément ici, un peu après, mais pas avant. Donc on peut déjà identifier le moment dans l'univers où ça va être possible de former des noyaux, et le moment où ça ne va pas être possible, c'est-à-dire avant. Et pour comprendre maintenant ce qui préside à la formation dans les noyaux, il faut faire un autre détour par un énorme pan de la physique, qui est la physique statistique. Mais alors la physique statistique, ce qui est très beau, c'est qu'en fait, on peut en comprendre l'essentiel sans même faire de la physique. Alors on va faire une expérience statistique. On donne 100 euros à N personnes. Je ne sais plus combien de personnes, je vais mettre 10 000 personnes. et je les laisse échanger librement. Ils ont le droit, avec mon ordinateur, à chaque tour, je dis « Ah, il y a deux personnes au hasard, il y en a une qui achète quelque chose à l'autre, elle lui donne 10 euros, 5 euros, 3 euros, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent donner, acheter, vendre, voler même, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce qui est important, c'est que l'argent ne soit jamais perdu. On n'a pas le droit de brûler des billets, même à la télé. Si je fais ça, alors il va se passer quelque chose. Au début, ça c'est la répartition, c'est le nombre de personnes qui ont 100 euros. Alors évidemment, au début, j'ai mis 100 euros à tout le monde. Tout le monde a 100 euros. Et puis les gens commencent à échanger. Il y en a qui commencent à s'enrichir. C'est juste le fruit du hasard. Il y en a qui perdent. Mais ils ne cherchent pas spécialement à s'enrichir. Dès qu'ils se rendent compte, c'est comme s'ils lancent un dé, si vous voulez, ils disent, tiens, combien on s'échange? Ah, ben, si je suis tombé sur un 6, je te donne 6 euros. Et on fait ça comme ça, toutes les personnes, elles passent leur temps à échanger de manière complètement aléatoire. Et ce qu'on trouve à la fin, c'est que la répartition, la richesse des gens, le nombre de personnes qui ont 0 euros, 10 euros, 20 euros, etc., ça suit la courbe en rouge. Et ça, c'est juste le fruit du hasard. C'est pas, on a rien mis d'autre que le fait que les gens échangent. C'est la première hypothèse. Ils échangent et beaucoup, et ils échangent quelque chose qui est conservé. On ne perd pas l'argent. Si on fait ça, la forme finale de la répartition, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peu d'argent et très peu de gens qui ont beaucoup d'argent. Vous voyez, c'est en fait, c'est vraiment statistique. C'est-à-dire que on va avoir des inégalités qui vont se développer, et c'est juste lié, c'est juste des probabilités, et c'est juste lié au hasard. Les gens, le hasard va faire qu'il y aura peu de riches et beaucoup de pauvres, et ça va suivre cette courbe. C'est la troisième équation. Cette courbe, c'est le facteur de Boltzmann. C'est une exponentielle décroissante. Vous connaissez peut-être l'exponentielle qui monte. Là, c'est, j'ai mis un signe moins, donc elle descend. Et la formule, c'est exponentielle moins l'argent, m, divisé par l'argent en moyenne. Donc là, par exemple, j'ai donné 100 euros, donc c'est exponentielle moins m sur 100, cette forme-là. Donc par exemple, ce qui est intéressant de voir sur ce schéma-là, c'est que le rapport entre les gens qui ont 200 euros et les gens qui ont 100 euros, eh bien, c'est exponentielle moins 200 moins 100 divisé par l'argent que j'ai donné en moyenne. Donc là, par exemple, sur ce schéma, j'ai mis en moyenne 100 euros par personne. Vous voyez, j'ai quand même une assez grosse différence entre les gens qui ont plus que la moyenne, le double, et les gens qui sont dans la classe moyenne. Il y a quand même peu de gens qui ont le double de la classe moyenne. Maintenant, si je donne plus d'argent, 400 euros par personne, et si je regarde le rapport entre ceux qui ont 100 euros et 200 euros, je fais la même formule, sauf que ici, maintenant, l'argent moyen, c'est 400. Et donc ça descend moins. Vous voyez, les inégalités entre ceux qui ont 100 et 200 sont plus faibles. Donc cette formule statistique nous permet de comprendre quel est le rapport entre les gens qui sont riches et les gens qui sont dans la classe moyenne, juste en fonction de la quantité moyenne d'argent qu'il y a dans le système, en fait, dans l'expérience sociale. Alors si vous prenez la répartition du patrimoine des Américains, en fait, ce n'est pas le patrimoine, c'est les revenus, mais c'est corrélé. Chez les Américains, vous avez les déciles, etc. En fait, ça suit pas mal une exponentielle décroissante. Et puis évidemment, il n'y a pas que le hasard dans les échanges. Et ça, c'est un modèle de société qui est complètement simpliste, évidemment. Ceux qui sont très riches ont par exemple des revenus d'action, etc. Ils ont des mécanismes qui font qu'ils sont beaucoup plus en train de recevoir de l'argent qu'en donner. Donc on a clairement, ces gens-là, ils ont une stratégie pour ne pas être juste en train d'échanger au hasard. Et puis là, on en a moins. Alors on pourrait dire que peut-être qu'on a des effets de redistribution qui font qu'on a moins de personnes. Mais on peut quand même, j'ai vu, il y a des articles là-dessus, on peut quand même avoir un modèle comportemental qui permet d'expliquer le fait qu'on en a moins ici. Si maintenant vous rajoutez le fait que les gens, quand ils se rencontrent, ils n'échangent pas exactement la même quantité d'argent, mais ils échangent toujours quelque chose proportionnel à ce qu'ils ont. Si vous avez 10 euros, vous allez acheter un pain au chocolat à 1 euro, peut-être un truc à 2 euros. Moi, j'ai regardé Rémi sans famille avec ma fille il n'y a pas longtemps, et il a 6 sous, il n'a pas grand-chose, il va à la boulangère, il demande à en payer que 3 parce qu'il veut en garder pour le lendemain. On dépense proportionnellement à ce qu'on a. Si on fait ça, on peut montrer de manière théorique que la courbe de statistique, en fait, au lieu de faire que descendre, elle doit d'abord monter et ensuite redescendre. Donc là, j'ai fait la même expérience, mais avec des gens qui, quand ils échangent, ils donnent juste une proportion de ce qu'ils ont et pas un montant aléatoire. Donc, en fait, et après, c'est juste le hasard qui fait qu'on a cette répartition des richesses. Donc vous voyez, en fait, avec les statistiques, on peut vraiment comprendre la répartition des choses uniquement avec des hypothèses qu'on a beaucoup d'échanges et que les quantités sont conservées. Alors comment ça se transpose, ça, à la physique? Les échanges en physique, ce sont les échanges d'énergie. Ce qui est conservé en physique, c'est l'énergie. Lorsque vous avez une collision entre deux particules, une réaction, vous avez l'énergie qui arrive, il se passe des choses, et vous avez l'énergie qui repart. L'énergie avant et après est la même. Ce qui est échangé en physique, c'est toujours de l'énergie. Donc ça va être notre quantité. Tout ce que j'ai dit par rapport à l'argent, l'exponentielle moins l'argent sur l'argent moyen, ça va se transposer, mais avec l'énergie. Ça va être exponentielle moins l'énergie sur l'énergie moyenne. Alors, qu'est-ce que sont les interactions dans l'univers primordial? Bien, les interactions dans l'univers primordial sont les interactions faibles qui permettent à un neutron, lorsqu'il rencontre un neutrino, il y a plein de neutrinos dans l'univers primordial, de devenir un proton plus un électron. Alors, je vous ai dit, j'aime bien cette interprétation. Il y a plusieurs points de vue sur le neutron et le proton. J'aime bien ce point de vue qui consiste à dire que le neutron et le proton sont deux états, d'ailleurs, de couleurs différentes, mais de la même chose. Hein? Mais il y en a un qui fait 939 mégaélectrovolts et lui qui fait 938 mégaélectrovolts. Donc il y en a un qui est plus riche en énergie, c'est le neutron, et il y en a un qui est un peu moins riche en énergie, c'est le proton. Et avec ces réactions-là, eh bien, tantôt, il y a un neutron qui échange de l'énergie, donc il est plus riche, donc il en donne un peu et devient un proton. Et tantôt, c'est le proton qui gagne de l'énergie, via par exemple l'électron qui lui en donne, et qui devient plus riche en énergie, qui devient le neutron. Donc on a en permanence dans l'univers primordial ces interactions-là qui changent les neutrons en protons, qui échangent de l'énergie, mais en conservant l'énergie. À chaque interaction, on conserve l'énergie. Et donc si j'applique ma formule, mais cette fois-ci pas à ceux qui ont 200 euros et ceux qui ont 100 euros, mais aux neutrons et aux protons, et que je fais le rapport du nombre de neutrons sur le nombre de protons, j'applique la même formule, exponentielle moins, alors je ne mets pas l'argent, je mets l'énergie du proton moins l'énergie du neutron, divisé par l'énergie moyenne. Et l'énergie moyenne, alors là c'est là qu'il faut faire de la physique, l'énergie moyenne, c'est lié à la température, c'est la constante de Boltzmann fois la température. Donc ça donne cette formule-là. Je vous ai montré que lorsqu'il y a beaucoup d'argent, on a peu d'inégalités ici, vous voyez, le rapport entre ceux qu'on sent et 200 est très faible, alors que lorsqu'on a moins d'argent, on va avoir plus d'inégalités entre ceux qu'on sent et 200. Et bien là, on va avoir la même chose. Cette formule-là, qui nous dit le rapport entre le nombre de neutrons et le nombre de protons, nous dit que ça va dépendre de la quantité d'énergie en moyenne, et ça dépend de la température. Pour des températures basses, on a peu d'énergie, on va avoir beaucoup d'inégalités entre les neutrons et les protons. On va avoir peu de neutrons, peu de gens riches, et beaucoup de protons. En revanche, pour des grandes températures, lorsqu'on a beaucoup d'énergie, en gros, on va avoir autant de neutrons et de protons, peu d'inégalités. Et c'est ça qui va présider à l'abondance des neutrons dans l'univers. Donc ça, c'est peut-être le diagramme le plus important de cette présentation. Le diagramme en tiré, c'est l'abondance des neutrons en fonction du temps. Alors, je vais prendre le temps de détailler ce qu'il y a sur ce graphique. Ça, c'est le temps en secondes. Donc là, j'ai 1 centième de seconde, 1 seconde, 10 secondes, 100 secondes, 1000 secondes. Au-dessus, j'ai la température. 100 milliards de degrés, 10 milliards de degrés, 1 milliard de degrés, 100 millions de degrés. En pointillé, et là, ça, c'est l'abondance des neutrons. Si ça fait 0,5, donc ça serait ici, ça veut dire que j'ai moitié de neutrons, 50%. 0,5, ça veut dire que j'ai 50% de neutrons. 0, ça veut dire que j'ai pas de neutrons. La courbe en pointillé, c'est la courbe de l'équilibre statistique, c'est-à-dire cette formule que je vous ai donnée ici, qui est uniquement liée au fait qu'on doit avoir plein d'interactions qui forcent les choses à être en équilibre statistique. Cette courbe en pointillé, au fur et à mesure que le temps passe, l'univers se refroidit, on a moins de température, on perd de l'énergie, on a de moins en moins d'énergie disponible, donc ça veut dire qu'on va commencer à avoir des grosses inégalités entre les plus riches en énergie, les neutrons, qui vont être très très peu nombreux, et les protons. Si j'attends trop longtemps avec cet équilibre statistique, vous voyez que j'approche zéro. Il arrive un moment, lorsqu'on a très peu d'argent, les gens riches, en fait, il n'y en a plus. Et là, c'est la catastrophe, parce que si j'arrive là, j'ai plus de neutrons. Or, ce que je vous avais promis, c'est que dans l'univers primordial, contrairement aux étoiles, eh bien, on a des neutrons. C'est ça qui fait que normalement, ça doit bien marcher. Dans les étoiles, on n'a pas de neutrons, et donc c'est très long de fabriquer des noyaux parce qu'il faut transformer des protons en neutrons. Dans l'univers primordial, on a des neutrons. Alors déjà, il y a deux choses qui vont nous sauver, qui vont faire qu'on ne va pas suivre cette courbe en pointillé. En pointillé, ce n'est pas la réalité. Première chose, c'est qu'à un moment, les interactions faibles, eh bien, elles sont faibles, elles ne sont pas assez importantes. Et donc, on ne va pas avoir assez d'interactions pour forcer à avoir la formule que je vous ai montrée. En fait, au bout d'un moment, au lieu de suivre la courbe en pointillé, ça va geler. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, on gèle l'expérience sociale, on dit, bon, maintenant, hop, la répartition de l'énergie, elle est ce qu'elle est, et voilà. Donc c'est à peu près par ici, vous voyez, on gèle, ça commence à plus beaucoup bouger, on est vers 25% à peu près. Mais en fait, ça continue à descendre. Je vous dis ça gèle, mais là, vous ne me croyez pas. Ce n'est pas en train de rester une constante, c'est en train de décroître. Et pourquoi ça décroît? C'est parce qu'il y a une autre catastrophe. La catastrophe, c'est ça. Le neutron, il est un peu plus lourd que le proton. Et ce que ça permet, c'est que le neutron peut se désintégrer en proton. Le neutron peut donner un proton, plus un électron, plus un antineutrino. Et ça, toutes les 610 secondes, la moitié des neutrons vont avoir disparu et vont s'être transformés en protons. Vous attendez 600 secondes, vous avez perdu la moitié des neutrons. Vous voyez, d'ici, je suis à peu près quelques secondes. Si je vais vers 600, qui est par ici, bam, j'ai perdu la moitié. Au lieu d'avoir 25%, là, je suis à peu près à 12%. J'attends encore 600 secondes, je vais à 1200, par ici, plus que 6%, 3%, etc. À la fin, j'ai plus rien. Donc, c'est la catastrophe. Si vous n'avez plus de neutrons, eh bien, vous ne pouvez plus former de noyau. Mais heureusement, ce qui nous sauve, c'est que ici, à ce moment-là, on peut commencer à former des noyaux. Je vous avais dit, dans l'univers primordial, ce qui empêche de former des noyaux, c'est ces photons. S'ils ont trop d'énergie, ils cassent tous les noyaux. Mais ces photons, ils perdent de l'énergie. Je vous dis, ils sont de moins en moins énergétiques. Et à peu près à cette période-là, entre 180 secondes et 300 secondes, enfin, en tout cas, autour de 180 secondes, ils commencent à plus avoir assez d'énergie, ces photons, et ils n'arrivent plus à casser le deutérium. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on va commencer à avoir des réactions de ce genre-là, la réaction nucléaire de base, la plus simple, un proton plus un neutron donne du deutérium et libère un photon. Et la réaction qui va dans l'autre sens, eh bien, en fait, on ne va plus en avoir, ou trop, plus suffisamment. Donc à partir d'ici, en fait, cette partie de la courbe où tous les neutrons disparaissent, en fait, elle n'est pas vraie. À partir d'ici, en fait, les neutrons disparaissent, mais c'est pour devenir du deutérium. Et quand ils sont dans du deutérium, ils sont stables. Et une fois qu'on a formé du deutérium, c'est gagné. On a piégé les neutrons dans du deutérium, on a formé un noyau très léger, c'est le plus léger des noyaux, à part le proton, évidemment. Et après, on a tout un réseau de réactions qui sont possibles. Et là, il n'y a plus de problème, parce qu'on ne perd plus nos neutrons, parce qu'ils sont stables lorsqu'ils sont dans des noyaux. Donc on a cette réaction, du deutérium plus un proton donne de l'hélium-3, vous voyez, deux protons, un neutron. De l'hélium-3 plus un neutron donne de l'hélium-4, on a du deutérium plus un neutron donne du tritium plus un proton donne de l'hélium-4, etc., etc. Et à la fin, essentiellement, tout ce qu'on avait sous forme de deutérium se retrouve sous forme d'hélium-4, deux protons et deux neutrons. Donc si je fais le bilan de cette courbe, ici, c'était l'équilibre statistique. Beaucoup d'échanges, ça force les neutrons à réduire leur nombre parce qu'il y a de moins en moins d'énergie et c'est de moins en moins probable d'avoir des neutrons. Puis, j'arrête l'expérience statistique, j'arrête les échanges, je gèle les neutrons. Mais pas complètement, je perds des neutrons parce qu'en fait, ils se désintègrent, donc j'en perds. Et puis là, je commence à former du deutérium. Donc, c'est par ici que je forme du deutérium. Je vais regarder combien j'ai de neutrons ici. Si vous regardez sur l'axe, en fait, je suis légèrement au-dessus de 10%, je suis à 12%. Ici, j'ai plus que 12% de neutrons et 88% de protons. C'est pas beaucoup, c'est quand même pas mal, c'est mieux que rien, c'est mieux que zéro en tout cas. Donc initialement, au moment où je commence à former le deutérium, j'ai sur 100 nucléons, j'en ai 12 qui sont des neutrons et 88 qui sont des protons. Et comme à la fin, j'aurais formé de l'hélium-4, et l'hélium-4, c'est 2 neutrons et 2 protons. Donc à la fin, j'aurais formé 6 hélium-4, et il restera 76 protons tout seul. Au final, ces 6 hélium-4, ils ont 4 nucléons, 6 fois 4, 24. J'aurai 24% de la masse qui sera dans l'hélium, et 67% de la masse qui restera sous forme de protons. Et après, ça ne va plus bouger. Alors en fait, ça, c'est le schéma le plus simple. Là, c'est toutes les réactions entre les neutrons et les protons. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on a des neutrons, des protons, ça forme du deutérium, il est ici, ça forme de tritium, de l'hélium-3, de l'hélium-4. Mais en fait, on a d'autres réactions qui forment du lithium-7, du beryllium-7, etc. Mais essentiellement, elles ne sont efficaces que pour former l'hélium-4. Ici, on n'a pas le temps de former des choses plus lourdes. Donc, ce que font les codes de physique nucléaire dans l'univers primordial, c'est réaliser ce programme-là, mais avec précision, c'est-à-dire suivre l'évolution des neutrons, et puis suivre l'évolution des réactions nucléaires, de toutes ces réactions nucléaires, et regarder comment les abondances évoluent. Donc essentiellement, un article de nucléosynthèse primordiale, il y a toujours ce genre de graphique, on voit l'évolution en fonction du temps, là, vous avez 10 secondes, 100 secondes, 1000 secondes, 10 000 secondes, des abondances. Donc, là, en rouge, vous avez les protons, bon, ben, à la fin, il reste 75%, donc ici, c'est 75%. En bleu pointillé, vous avez l'hélium-4, vous avez quasiment rien, un milliardième, mais à la fin, 25%. En noir, vous avez les neutrons. Ils ont tous disparu, les neutrons, ici. Pourquoi ils ont tous disparu? Parce qu'ils ont été pris dans l'hélium-4. Et puis, vous avez d'autres éléments, comme le deutérium. Le deutérium, on l'a utilisé, je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, il a été utilisé pour former l'hélium-4, donc il disparaît. Il y en a beaucoup ici, mais ça se réduit. Mais à la fin, il en reste quand même. Et puis, à la fin, ça ne bouge plus. Alors, pourquoi ça ne bouge plus? Parce que l'univers se refroidit, les espèces se diluent, et la probabilité qu'elles se rencontrent et qu'elles réagissent, c'est devient nul. C'est-à-dire que pour que les espèces se rencontrent et aient des réactions, il faut qu'elles soient proches, qu'elles aient des vitesses pour se rencontrer. Et donc, au fur et à mesure de l'expansion de l'univers, c'est de moins en moins probable qu'elles se rencontrent, et au final, il n'y a plus de réactions, et donc ça gèle. Donc là, c'est ce qui se passe, ça gèle, ça devient une constante, et puis ça reste comme ça. Voilà. Ça reste comme ça aussi pour le beryllium-7, pour le lithium-7, etc. Donc voilà, c'est ça, en fait, les prédictions de l'univers primordial, c'est beaucoup moins ambitieux que le programme de Alpher, Bethe et Gamow, de dire que tout est formé. En fait, le seul qui est vraiment bien formé, là, on voit qu'il va bien vers le haut, c'est l'hélium-4. Les autres, ils n'ont pas vraiment le temps d'être formés, enfin, ils sont formés un peu, ou alors le deutérium, il en reste, mais un peu. En fait, c'est un millième de pourcent, il en reste du deutérium, pas grand-chose, essentiellement. Mais essentiellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à former 24% d'hélium-4. Et en 13 milliards d'années, 13 milliards d'années d'activité, d'étoiles qui font des réactions, etc. On a juste fait passer le taux d'hélium-4 de 24% à 26%. Vous voyez, tout ça, ça a lieu en 300 secondes. En 300 secondes, 5 minutes, on a formé 24% d'hélium. En 13 milliards d'années, on va former 2%. Alors, pourquoi je vous disais que la nucléosynthèse primordiale, c'est un pilier de la cosmologie? Parce que ces abondances, en tout cas celles des éléments les plus légers, on peut les observer. L'hélium-4, on peut mesurer son abondance. Le deutérium, on peut mesurer son abondance. L'hélium-3 aussi. Le lithium-7 aussi. Alors l'hélium-4, là c'est l'abondance de l'hélium-4, vous voyez, 24%, entre 24 et 25, c'est ce qu'on mesure. Et ça en bleu, c'est la prédiction théorique en fonction de la quantité de nucléons dans l'univers. Et alors on sait aujourd'hui, depuis le satellite Planck, que la quantité de nucléons dans l'univers, elle est là, sur le trait gris. Ça, c'est grand progrès par rapport à il y a 10 ou 20 ans. On sait qu'on est là. Donc, la prédiction théorique, c'est l'intersection de la ligne grise et de la ligne bleue. Donc, la théorie dit que ça doit être là. Ça tombe bien, les observations marchent. Pour le deutérium, c'est l'intersection de la ligne grise et la ligne bleue, la ligne verte. Donc, la ligne grise, c'est la quantité de nucléons. La ligne verte, non, pardon. Et la ligne bleue, c'est la prédiction théorique. Donc, l'intersection du gris et du bleu doit être ce qu'on observe. Et alors là, j'ai dû faire un zoom. Là, vous avez le gris, vous avez le bleu, l'intersection est là. Et ce qu'on observe, c'est, vous voyez, c'est quasiment rien du tout, c'est bon. Quoi. Si j'augmente un peu les barres d'erreur, ça marche sans problème. Pour l'hélium-3 aussi, ça marche pas trop mal. Et puis évidemment, vous avez peut-être entendu parler, on a un problème pour le lithium, parce que la prédiction théorique, elle est là, et l'observation, elle est là. Donc ça marche bien pour tout ça, ça marche pas pour tout ça. Mais c'est déjà incroyable que ça explique les 24% d'hélium, et que là, ça passe très très bien, et là aussi. Donc, à ce petit détail près, qui est quand même pas un détail, il y a des conférences entières, vous pourrez me poser des questions, me demander pourquoi il y a un problème, je vous dirai que j'en sais rien. Mais en tout cas, dans la littérature, il y a plein de solutions qui sont proposées, toutes pas plus bancales les unes que les autres, mais en fait, on ne sait pas vraiment résoudre. On a tout essayé, surtout ces 20 dernières années, pour essayer de comprendre pourquoi il y avait un problème là. Donc, il reste des problèmes, c'est le problème qui reste. Mais pour l'essentiel, ça marche très bien. Et alors après, ce qu'on peut faire, on peut faire de la cosmologie avec ça. On peut se dire, bon, il y a essentiellement deux choses que je mesure très bien, c'est le deutérium. Vous voyez là, l'hélium-3, on le mesure, mais bof, bof. Mais le deutérium, on le mesure vraiment bien à 1,2% près. Et l'hélium-4, on le mesure très bien là, à 1,6% près. Donc quand on a deux mesures, eh ben, on peut contraindre deux paramètres cosmologiques. Alors les paramètres cosmologiques qu'on peut contraindre, c'est l'abondance de nucléons, parce qu'évidemment ça dépend forcément de l'abondance des nucléons, parce que c'est l'histoire des nucléons. Et il se trouve que, alors bon, c'est un peu compliqué, mais ça dépend aussi du nombre de neutrinos. Et donc on peut faire des contours. Vous voyez là, c'est quand on prend les contours de la nucléosynthèse primordiale et de tout ce qu'on sait du rayonnement fossile, le CMB, ben ça donne le contour noir dans l'espace du nombre de neutrinos et de l'abondance de nucléons. Donc on sait que le nombre de neutrinos, là j'ai marginalisé, c'est la courbe de noir, ben c'est un nombre qui est compris entre 2 et 4 et qui est un nombre entier. Voilà, je vous laisse deviner combien c'est. C'est 3, ça tombe bien parce qu'on ne connaît que 3 types de neutrinos. Et puis l'abondance des nucléons, ben voilà, maintenant on la connaît de manière très précise, hein, vous voyez là, c'est la courbe noire, c'est 0,022 à plus ou moins 1%. Donc en combinant tout, on peut obtenir l'abondance des nucléons. Mais ce qui est vraiment important de voir dans ces graphes, c'est qu'on peut décider de ne pas tout combiner. On peut décider de ne pas combiner ce qu'on apprend avec le rayonnement fossile et ce qu'on apprend avec la nucléosynthèse primordiale. Ce qu'on apprend avec le rayonnement fossile tout seul, c'est la courbe verte. Et ce qu'on apprend avec la nucléosynthèse primordiale toute seule, c'est la courbe rouge. Et vous voyez, elle se recouvre. Là, il faut imaginer que c'est les nombres, vous voyez, je passe de 0,021 à 0,023. Donc c'est des petites variations. Donc, la physique qui se passe dans les 300 premières secondes, elle a des conséquences en termes d'abondance d'hélium-4, de deutérium. La physique du rayonnement fossile n'a rien à voir. Elle se passe entre 300 000 ans aujourd'hui, c'est lié à la propagation des photons. C'est complètement différent. Et bien, ces deux physiques-là donnent des prédictions d'abondance des nucléons qui sont compatibles entre elles. Et c'est en ça que c'est vraiment des piliers. Si on avait des grosses différences à cet endroit-là, là, on aurait un gros problème. Par exemple, si on en a un qui prédisait 3 types de neutrinos, là, on prédisait 5, on aurait un gros problème. Le fait qu'avec la physique des 5 premières minutes, on contraint un paramètre et un autre paramètre cosmologique qui sont quand même centraux dans la cosmologie moderne, et qu'on trouve la même chose avec une physique complètement différente, fait qu'on a une très grande confiance, plus qu'une très grande confiance, c'est une preuve du modèle cosmologique standard. Voilà, je termine sur cette note-là. Je vous remercie.
Vous m'entendez? C'est bluffant d'arriver à expliquer des choses aussi complexes comme ça. Bravo. Oui, je présume que vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui.
Pourquoi un neutron, il claque au bout d'un quart d'heure quand il est tout seul, et quand il est bien au chaud, il est éternel?
Aucune idée. En tout cas, la différence entre quand il est tout seul et quand il est à l'intérieur, c'est qu'il y a toutes les interactions d'interactions fortes, donc qui sont les interactions fortes, c'est les interactions nucléaires, entre les nucléons. On pourrait poser une autre question, pourquoi quand je mets deux protons et un neutron, ça tient alors que les deux protons sont chargés positivement? Donc en fait, à partir du moment où les nucléons sont proches les uns des autres, il y a des interactions fortes entre elles, qui fait que la physique est complètement différente. Par exemple, on pourrait aussi poser la question, pourquoi lorsque je les mets ensemble, j'ai moins d'énergie? J'ai moins d'énergie parce qu'il se passe des choses. Donc on sait quand c'est dans un noyau, il y a des échanges de mesons, c'est ça qui véhicule l'interaction forte, etc. Donc la physique est complètement différente. Mais on ne peut pas savoir comme ça, c'est forcément une question à laquelle on n'a pas la réponse, parce que ce n'est pas un système simple. Le neutron, ce n'est déjà pas une particule élémentaire. À l'intérieur, il y a trois quarks, le proton, c'est pareil. Donc c'est déjà de la physique, et ce n'est pas de la physique qu'on peut dériver juste de principes fondamentaux. C'est parce que c'est complètement non linéaire, on ne peut pas dire « Ah, j'ai la théorie des quarks, c'est la QCD, donc comme j'ai cette théorie-là, je comprends forcément comment c'est un neutron. » En fait, souvent, on a la théorie, mais pour savoir comment elle s'applique, en fait, c'est extrêmement compliqué. Donc on sait que c'est des interactions fortes, on sait que c'est la QCD, les interactions fortes, mais déjà, rien que la structure du neutron et du proton, il y a des choses qu'on ne connaît pas, par exemple les valeurs du moment magnétique ou des choses comme ça. Il y a des paramètres qui sont juste mesurés, qui sont phénoménologiques, et qu'on ne sait pas des principes premiers de la QCD, donc la chromodynamique quantique, on ne sait pas les dérivés, donc encore moins les interactions entre les nucléons dans le noyau. Donc la physique nucléaire, c'est une physique beaucoup d'expérimentale, il y a des lois phénoménologiques, etc. Mais on ne peut pas juste en disant, de toute façon, tout dérive de la chromodynamique quantique et de l'électrodynamique quantique, donc je résous mes équations et je trouve quelles sont les forces. On ne peut pas faire ça pour tout ce qui se passe à l'intérieur du noyau.
En ce qui concerne le proton, c'est beaucoup plus long.
Le temps de vie du proton ? Ah oui, le proton, c'est beaucoup plus grand que l'âge de l'univers.
Oui, c'est ça. Donc c'est intéressant quand même, parce que là, on voit bien qu'il y a une grosse différence entre le proton libre, c'est 10 minutes, et le neutron libre, c'est 10 minutes, et le proton libre, c'est...
C'est
étonnant.
C'est énorme. Oui. Ouais.
Merci. Juste un commentaire. Si je comprends bien, tout ça n'est possible que parce que le neutron, il n'a pas eu de chance, il est un peu plus lourd que le proton. Oui. C'est ça ? On peut résumer ça comme ça ?
Oui. Oui, oui. Pour ça, je disais, il y en a un qui a 939 et l'autre qui a 938. Ça paraît anodin, on peut retenir, c'est 900. En fait, il faut bien retenir qu'il y a...
Sinon, on ne serait pas là.
Je ne sais pas, parce que... Je ne saurais pas dire ça, parce que le fait qu'il y a 24% d'hélium, ça me paraît pas... Il y a plein de choses. Si on change la physique fondamentale dans l'univers primordial, on fait varier les constantes ou la constante de structure fine, il y a plein d'études qui ont été montrées que parfois, ça peut changer de manière dramatique tout le reste et rendre impossible la vie ou plein de choses. Mais là, pour ce qui est de l'abondance, le fait qu'on a 24% d'hélium dans le milieu intergalactique, de toute façon, la composition locale sur la Terre n'a rien à voir avec la composition moyenne. Vous avez dit, la composition moyenne dans le système solaire, on a des traces de carbone, des traces d'azote, des traces d'oxygène, essentiellement que l'hydrogène et l'hélium. Bon, bah, sur la Terre, on a du fer, on a du carbone, on a du nickel, on a plein de choses qui sont normalement rares. Donc les planètes telluriques ont une composition qui n'a rien à voir avec la composition moyenne.
Sur le bilan énergétique d'une étoile, il y a quand même une différence. Si tu changes la composition de l'hélium pour le soleil...
Ah oui, ça change la fixe solaire.
Il change.
Ah oui, complètement.
On ne serait peut-être pas là. En ce qui concerne les particules et les antiparticules, électrons, anti-électrons, il y a aussi des différences.
Comment ça ?
C'est la raison pour laquelle ils s'annihilent, d'ailleurs.
Ah, on a une asymétrie. On a légèrement plus, dans l'univers primordial, on a légèrement plus d'électrons que de positrons. Les positrons, c'est les anti-électrons, c'est les antiparticules des électrons. Et on a une légère asymétrie, dont on ne connaît pas l'origine. Hein, ça. Et c'est ce qui fait que quand ils s'annihilent, il reste une petite portion d'électrons. En fait, là, dans l'univers, finalement, il n'y a qu'une portion infime des électrons qu'il y avait... de manière primordiale, quasiment tout s'est annihilé avec des positrons, et il reste une toute petite partie parce qu'il y avait un peu plus d'électrons que de positrons.
Voilà. Une autre question, des autres questions ? Oui.
Merci. Alors, c'est un tout petit peu légèrement, enfin, c'est pas exactement pile poil le sujet, mais du coup, est-ce que c'est possible d'extrapoler, vu la formation des nucléons protons plus neutrons, avec où il ne faut pas que les photons aient une énergie trop élevée, sinon ça casse les liaisons, est-ce qu'on peut extrapoler cette façon-là de réfléchir à la formation carrément des protons ?
À l'époque où on a l'énergie des quarks ?
Ouais, par exemple.
Ah, de toute façon, dans le modèle standard de la cosmologie, si on inclut la théorie de l'inflation, donc c'est vraiment très en amont, proche de la singularité, on doit aller d'une physique qu'on ne connaît pas, qui est l'objet de toute la recherche sur l'inflation aujourd'hui, au modèle standard. Et donc on doit passer par plein de particules, on doit passer par toutes les particules, et au fur et à mesure de l'histoire thermique, il y a toujours les particules, les antiparticules qui se recombinent, et à chaque fois, on a... En fait, le moment où on n'a que des neutrons et des protons, c'est déjà après une certaine évolution. aussi dans l'univers primordial, par exemple, on doit avoir des protons, des antiprotons, mais qui sont recombinés de telle sorte qu'il en a, avec une petite asymétrie, plus de protons que d'antiprotons, et donc, etc. Et après, évidemment, on va avoir la forme. Le proton, c'est un étalier, donc on va avoir les quarks, et pareil, il y a des quarks, des antiquarks, etc. Donc, oui, toute cette histoire, elle se répète, et elle se répète même en aval, c'est-à-dire cette fois-ci pour la formation des atomes. Je vous ai dit, au niveau de 300 000 ans, avant 300 000 ans, on a un plasma, c'est-à-dire qu'on a les protons, et puis bon, l'hélium-4, et puis les électrons, mais qui sont en plasma. Un plasma, ça veut dire qu'ils sont une soupe séparée, comme dans les étoiles, ou comme lorsque vous avez un éclair qui passe dans l'atmosphère, c'est un plasma, ça sépare complètement les électrons des atomes. Et au niveau de 300 000 ans, les photons ne sont plus capables de casser les atomes, donc ces électrons peuvent se mettre autour des protons pour former de l'hydrogène. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à ce moment-là, l'univers devient transparent. Tant qu'il y a des particules qui sont séparées, qui sont chargées, un photon, il passe son temps à diffuser, à changer de trajectoire. Dès qu'on a pu recombiner, on a pu former des atomes d'hydrogène neutre, là, l'univers devient complètement transparent. Et comme c'est à l'électron-volt, et donc à une énergie beaucoup plus basse, ça se fait beaucoup plus tard.
Voilà, il faut digérer. Hein. Oui, la température était très élevée. Non, plus de questions. Alors voilà, bon, donc je vais encore remercier Cyril. Merci beaucoup.